The bleeding heart of the atom within the stone. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Jules, sur le chemin du retour, n'a pas le temps de penser à tout ça. Il doit se dépêcher, c'est bientôt l'heure de dîner. Arrivé chez ses parents, il monte à sa chambre sans se faire remarquer. Il se déshabille, une petite toilette, échange de vêtements. Le repas et la soirée se passent normalement sans que personne lui fasse de remontrance, même pas sa sœur. La nuit, dans son lit, il repense à ce qu'il a fait. Cela le fait bander et est obligé de se masturber Après s'être nettoyé avec une serviette, il peut penser plus calmement à ça. Pour lui, cette expérience n'a pas le goût du, n'a que le goût du plaisir. Il n'aime pas Hortense. Son corps est à Apolline. Il connaît déjà ce plaisir, mais il ne l'avait jamais ressenti à fond avec une personne. Sa sœur, de la toucher, cela le fait bander, mais il ne va pas plus loin, par respect pour elle. Là, il a pu faire à fond, tout toucher, voir et faire vraiment l'acte. Cela ne l'a pas déçu, malgré sa fierté. Il est prêt à recommencer. Pour lui, Hortense, c'est une belle et gentille femme avec qui l'on peut s'amuser pour avoir du plaisir. Rien de plus. Et ce qu'il a fait, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est ni à crier sur les toits, ni à en être fier. C'est normal. Mais maintenant, il sait, et lorsqu'il va écrire l'amour ou le désir, il saura vraiment ce que c'est. La nuit, il repense à ça. La vie reprend comme d'habitude, sauf que la nuit, il se masturbe un peu plus qu'avant. Apolline est toujours sa petite sœur adorée. Il la respecte plus qu'avant car il sait que certains gestes, certains mots peuvent donner comme plaisir que peut devenir amer si la personne n'est pas consentante ou innocente. Il ne cherche plus à faire des attouchements à sa sœur, se contente de la regarder, de lui prendre la main. Pas par raison morale ou sociale, mais par respect pour l'être aimé. Elle sait qu'il y a quelque chose, car il lui manque quelque chose. Ce sont les caresses, les yeux pleins de désir de Jules. Un matin, elle va le voir dans sa chambre.
Entrez.
Il est encore au lit, comme d'habitude. Elle se penche, donne un baiser.
Bonjour. Bonjour.
Et s'allonge près de lui.
Ça va? Oui. Parce que je te trouve un peu bizarre. Non, ça va très bien. Au contraire, elle lui dit, tu me parles plus comme avant, mais je n'ai rien de spécial à te dire. Elle lui dit, et puis aussi, tu as l'air plus réservé. Non? Oui, toi. Elle rit et lui touche la poitrine qu'il a légèrement défaite. Lui veut l'en empêcher. Elle essaye de se plaquer sur lui. Il sent ses seins. Cela le trouble. Il se dégage et se lève. Elle est rouge de confusion et sort de la chambre. Voilà 15 jours qu'il n'a vu Hortense. Cela lui manque, mais il n'ose pas aller chez elle. C'est à elle à l'inviter. Pour ce qui est d'Hortense, par peur du qu'en dira-t-on, elle n'ose pas le faire revenir et tient à ce que ses visites soient espacées. Mais elle pense constamment à ce petit bijou qui marche comme une horloge. Un jour, Apolline vient lui rendre visite. Tout en prenant le thé, Hortense, qui prend Apolline pour sa meilleure amie, parce qu'elle a tellement besoin de sympathie, d'amitié, que la moindre remarque gentille, le moindre geste d'une personne la fait fondre. Et comme Apolline a de l'amitié pour elle, elle multiplie son amitié. Donc, tout en prenant le thé, Hortense veut faire partager sa joie à Apolline. Tu es une amie et avec toi je peux tout te dire. J'ai toujours eu un faible pour ton petit frère. Alors, un jour, je l'ai fait venir chez moi pour une affaire de courrier à corriger. Il a été tellement gentil, a fait ça d'une façon tellement gentille, tu vois, que j'ai voulu le remercier. Je lui ai donné ce qu'il attendait d'une femme. Et lui m'a donné la plus belle joie que je n'ai eue. Ton frère est merveilleux. Je l'aime, tu peux pas savoir. Il ne rêve que de recommencer, mais si ce n'était pas le qu'en dira-t-on, je le ferais venir tous les jours. Parce que je peux te le dire, c'est que il est bien fait et puis c'est quelqu'un. Et en plus, tendre, oh là là, tendre. La peau douce. Elle soupire. Apolline est rouge de confusion. Elle n'est pas en colère, non, mais à honte de ce qu'elle vient d'entendre. Elle se dit que la réputation qu'on lui fait, elle la mérite bien. Dévergonder un adolescent. Et en plus, en être fière et en parler comme une chose normale à la sœur du jeune homme. Quelle toupet! Hortense la voit. Tu es bizarre. Qu'est-ce que tu as? Parce que je t'ai parlé de ton frère? Ne sois pas gênée. Mais il ne faut pas. C'est tout naturel. Ton frère est un jeune homme. Il fallait bien qu'un jour ou l'autre, Apolline se met à lui crier en fermant les yeux. Arrête! Je t'en prie. Hortense ne dit rien. Elle devient toute pâle. Apolline se lève pour sortir de la pièce. Hortense reprend ses esprits. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Elle se lève d'un bond pour courir après Apolline. En sortant de la maison, elle n'est plus dans le parc et la rue est déserte. Hortense s'est effondrée. J'ai perdu mon ami. Je m'imagine toujours que les gens sont comme moi. Il y a des choses qui ne se disent pas, même à ses meilleurs amis. Mon Dieu. Elle s'en retourne chez elle. Apolline court comme une folle jusqu'à chez ses parents. Elle ne sait pas pourquoi elle court, mais elle le doit. C'est pour laisser la plus longue distance possible entre la peine que lui a fait ses aurores et pour s'éloigner du lieu où ces choses ont eu lieu. Pour effacer dans sa mémoire tout ça. Malheureusement, elle a beau s'en éloigner, les phrases restent, car elle les emporte avec elle. Malgré elle, elles sont entrées dans sa tête, son esprit en est plein. Elle a de la peine, elle est furieuse, elle est en colère, elle ne sait pas pourquoi, mais elle l'est. Elle ne se rend pas compte que cette colère, cette fureur, prouve qu'elle aime Jules. Elle court les larmes aux yeux, sans rien voir autour d'elle. Arrivée à la maison, elle monte pour s'enfermer dans sa chambre.
Là, elle se jette la tête à première sur le lit.
Pleure de chagrin, de rage, pleure. Et tout d'un coup, elle se lève.
Sort de sa chambre. Va à celle de son frère. Il est debout, au milieu de la pièce. Elle va à lui.
Les larmes aux yeux, elle se met à le gifler.
À gifler. En pleure. Il essaye de se défendre, de lui prendre la main, de lui prendre les bras. Elle multiplie ses forces et le fait tomber à terre. Elle continue à lui donner des gifles de partout sur le corps. Mais qu'as-tu? Tu es folle. La voix de son frère, cette phrase l'arrête d'un coup et la ramène à la réalité.
Et est essoufflé, cheveux défaits en sueur, Jules se relève. Il lui demande « Mais qu'est-ce que tu as ?» Elle ne répond pas. Hagard, épuisée, elle se dirige vers la sortie de la chambre. Il la suit. La fait retourner sur elle-même et lui demande « Peux-tu me dire ce que tu as ?» Elle baisse ses yeux et pleure sur sa poitrine. Il lui caresse ses cheveux. « Peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Il la prend dans ses bras et l'amène s'asseoir sur le rebord du lit.
Et s'assoit à côté d'elle.
La tient par la taille. Elle baisse la tête sur son épaule. Long, Dis-moi tout. Dis-moi tout. Elle avale sa salive et lui dit, Hortense m'a dit ce que vous aviez fait. Il devient pâle, l'embrasse sur les cheveux et lui dit, ça n'a pas d'importance, c'est comme un jeu, ce que nous avons fait. Mais je ne l'aime pas, c'est vrai, oui. C'est toi que j'aime et personne d'autre. Tu n'as pas à être jalouse. Ne sommes-nous pas frères et sœurs? Rien ne peut nous séparer. Rien, tu m'entends. Elle se penche en arrière et s'allonge. Il la regarde et lui dit, tu es la plus belle. Elle lui caresse le dos. Il reste quelques secondes sans se parler. Seul leur regard est une invite pour l'autre. Lui est ébloui par elle. Elle veut se sentir aimée. Alors, les choses se font tout naturellement, sans que chacun n'ait pensé à ce qu'il allait faire. Il s'est penché vers elle, l'a embrassée, a senti son corps tout doux, ses seins qui étaient prêts à s'offrir. Dans le silence de la maison, presque hors du monde, ils se sont offerts, car lui aussi, en donnant, s'offrait. Jules est trop doux. Tout doucement, il l'embrasse, la caresse. Il sent son corps lui appartenir. Doucement, sans brusquerie, ils ont découvert leur corps nu et beau. Ils se sont mélangés, chair contre chair, salive contre salive, lèvres contre lèvres, et lèvres qui font découvrir le corps de l'autre. Puis, tout doucement, il l'a prise. Elle était vierge, quelques gouttes de sang, une douleur. Et la porte du plaisir s'est ouverte à eux deux pour ne faire qu'un. Toujours le même pincement au corps, le froid. Ils sont restés un moment enlacés, doucement, gentiment, se sont encore caressés. Pas une seconde, ils n'ont pensé qu'ils faisaient mal. Ils étaient beaux, jeunes et s'aimaient. La chambre s'assombrit. On a frappé à la porte. Il est l'heure de dîner, monsieur. C'est la bonne. Bien, j'arrive. Tout doucement, il s'est soulevé, a donné un baiser à sa sœur et lui a dit, il faut se lever. Oui.
est allé à la salle de bain. Lui s'est habillé.
Puis, une fois habillés tous deux, ils ont quitté la chambre. Pour eux, rien n'a changé. Ils sont les mêmes du point de vue intérieur et de leur façon de faire. Seulement Apolline se sent mieux, plus sûre de l'amour de Jules, et Jules est satisfait de lui avoir montré qu'il l'aimait. Quant à Hortense, il ne pense pas à lui en vouloir. Il la désire toujours, car c'est un désir de jeu, de joie. Apolline, après l'amour avec son frère, ne pense plus à Hortense. Elle est la première, la seule. Lorsque, le lendemain matin, elle va frapper à la porte de son frère, elle le fait comme tous les matins, tout naturellement, sans crainte, ni arrière-pensée.
Bonjour, il est comme d'habitude au lit. Elle s'allonge à côté de lui.
Il met tout naturellement sa tête sur son ventre et la main sur sa taille. Elle lui demande : t'as bien dormi ? Oui, et toi ? Moi aussi. Elle lui caresse ses cheveux et lui baise le ventre. Elle lui dit : il va falloir bientôt se lever. Oui. Il reste un moment ainsi, puis se lève. Voilà. Leur première rencontre après ce qui s'est passé. Puis, les jours passent et tous les deux se souviennent de leur union. Les caresses deviennent de plus en plus longues, leurs baisers tendres. On a de plus en plus de la peine à se quitter, etc., etc. On recommence ce qui était si joli, mais là, elle a peur et lui dit durant leur union : attention, pas d'enfant. Il ne sait comment. Sors-toi avant. Quant à Hortense, elle ne se rappelle plus à eux. Dans la maison, ni les domestiques ni la famille n'a rien vu. Apolline, depuis toujours, va chaque matin voir son frère, et c'est tout. Et qui oserait penser à des choses pareilles dans une famille si bien ? Un frère et une sœur qui s'entendent si bien que c'est un enchantement à les voir tous les deux. Les parents ont bien de la chance, ce qui fait qu'on les laisse seuls, tranquilles. Quant à Charles-André, lui, ne s'occupe de rien. La famille ne l'intéresse plus. Il passe des heures dans sa chambre à essayer d'écrire. À 22 ans, il n'a pas cherché à se faire une situation. Il a raté ses études, ne cherche pas à travailler. Il boit beaucoup dans sa chambre, emmène des bouteilles de vin qu'il prend en cachette de la cave, fume aussi beaucoup. Et de temps en temps, lorsqu'il a assez d'argent, il va fumer de l'opium. Son père lui donne une pension. Il dit toujours, « C'est un cas, un malade. Dans toutes les familles, il y a des cas spéciaux. » Donc ses parents le prennent pour un fou et ne font plus attention à lui. Ses vêtements sont négligés, sales, même quelquefois déchirés. Car les domestiques, sachant que les parents le prennent pour un demeuré, négligent son service. Sa chambre est devenue une pièce sentant le tabac ou des livres un peu partout, quelques bouteilles à terre. Il essaye d'écrire une histoire, quelque chose qu'il puisse publier pour prouver à sa famille qu'il est reconnu ailleurs. Ce n'est pas facile de trouver un sujet. Il en noircit des pages et des pages, incapable d'en développer aucune. Et puis, un jour... Un jour, il écrit. Un père pleure la mort de son fils, qui est mort de faim, de froid. Alors il fait revivre les souvenirs qu'il a de lui par un acteur. Là, cette fois, il peut la développer, car il se met à la place du fils. Il pleure sur ses malheurs. En réalité, Charles-André exprime son besoin d'amour, sa solitude, et veut crier à ses parents son amour pour eux et leur manque d'amour. La nouvelle qu'il écrit, c'est un appel au secours à ses parents. Il leur dit, par l'intermédiaire de la nouvelle, que si vous ne m'aimez pas, vous le regretterez et il sera trop tard. Et il écrit en y mettant beaucoup du sien, mais malheureusement, sans se rendre compte, c'est trop lyrique. Ce n'est qu'un cri. Ce cri, lu par une personne qui ne lui est pas destinée, peut paraître loufoque. Une fois qu'il ait fini la nouvelle, il l'envoie par courrier à la maison d'édition parisienne. Attend la réponse en ne faisant rien. Il se dit que s'il est édité, il pourra enfin être dans le monde des adultes. Les jours passent. Et un jour, la nouvelle lui a été retournée. Il a posé le courrier sur la table et est sorti pour boire. Jules a une commission à faire pour son frère de la part de sa mère. Il va frapper à la porte de sa chambre.
Pas de réponse. Frappe encore une fois. Il entre.
Cela fait longtemps qu'il n'est pas entré dans la chambre de son frère. Ça le surprend de voir tout ce désordre, cette saleté, cette odeur de tabac. Il se dit que son frère a une chambre qui sent l'homme. Il regarde bien autour de lui. Il ne se rend pas compte que cette pièce sent la souffrance, la solitude de son frère, son désespoir. Il voit sur le bureau une liasse de papier. Sur la première feuille est écrit « Le fils ». Nouvelle de Charles-André Beaumandin. Est écrit en rouge sur toute la feuille en diagonale « Refusé ». Jules lit au hasard une feuille. 2. Trouve le sujet pas mal. Va s'asseoir pour lire la nouvelle. Une fois qu'il est fini, je tiens ma vengeance. C'est Dieu qui l'a voulu. Je vais lui montrer à cet imbécile que je suis plus grand que lui. Je m'en vais réécrire son sujet à ma façon et l'on verra. Il décide de sortir en vitesse de la chambre de Charles-André pour aller à la sienne écrire le résumé de ce qu'il a lu. Une fois qu'il est fini d'écrire le résumé, il réfléchit bien et commence à raconter. Un père a deux fils. Il est veuf. Le père est mieux l'un des deux. Celui qui n'est pas aimé, ou moins aimé après une dispute avec son père parce qu'il a été injuste avec lui, le fils qui est devenu adolescent quitte le père. Le père apprend quelque temps plus tard que le fils est mort de faim dans la plus grande misère et qu'il en a du remords. Cette première partie, il l'écrit d'une façon simple, avec des événements qu'il a eus avec son frère et son père. Le vol de la montre, ce n'est pas le voleur qui est puni, mais l'autre. La deuxième partie de la nouvelle, le père, pris de remords, veut faire revivre son fils mort et lui rendre justice. Pour cela, il se sert de son frère. Il fait revivre les scènes qu'il a eues avec son frère. Le frère le fait et petit à petit, il se laisse prendre et emporter par ce qu'il joue. Il devient son frère et se suicide lui aussi. Une fois que la nouvelle a été écrite, il la présente à un éditeur qui la prend. Jules est fou de joie, mais garde le secret pour sa sœur. L'éditeur lui donne rendez-vous pour signer son contrat. C'est un petit éditeur qui se trouve place Bellecour dans un petit appartement, un vieil immeuble, deux pièces pleines de livres. Un petit monsieur à moustache, habillé de gris.
Nous allons commencer avec 600 exemplaires, ce qui va vous faire une somme de... Cela vous va-t-il ?
Oui, monsieur.
Bien. Signez et si vous avez d'autres nouvelles, montrez-les-moi. Vous avez beaucoup de talent. Je vais vous faire cadeau... pour vos amis de 20 exemplaires.
Merci, monsieur.
Voilà, le contrat est signé, Jules est heureux. Il sera édité et par compte d'auteur, et c'est un espoir. Il ne dit rien à personne, Et le jour où il reçoit cet exemplaire, il va au salon pour en offrir un à chacun des membres de sa famille.
Frappe et entre. Puis distribue à chacun un exemplaire.
Sa mère est surprise. Qu'est-ce ? Lisez, mère. Elle lit la couverture. Oh, mais où as-tu trouvé l'argent pour te faire éditer ? C'est pas un compte d'auteur. L'éditeur a trouvé ma nouvelle très bien et l'a prise. Son père lui dit. Félicitations, mon fils. Apolline lui dit. Tu es un vrai cachotier. Charles-André n'est pas avec eux. Sa mère lui dit. Il doit être dans sa chambre. Va le lui porter.
Il sort du salon pour aller à la chambre de son frère. Il entre. Le frère est assis et fume une cigarette. Il s'approche de lui et lui tend le livre.
Qu'est-ce que c'est ? Une nouvelle que j'ai réussi à faire éditer. Charles-André hausse ses épaules et lui dit : Avec l'argent de mère ? Non, à compte d'auteur. C'est l'éditeur qui a pris tout à sa charge. Tu as plus de chance que moi. Jules hausse ses épaules
et sort de sa chambre. Il se fiche de ce que pense son frère. Il retourne au salon. S'asseoir à côté de sa sœur.
Elle lui demande « Pourquoi ne l'as-tu rien dit ?»« C'était pour vous faire une surprise. »« Je suis très fier de toi. » Il lui dit « Attends, lis-le. Après, tu pourras me dire ce que tu en penses. » Deux jours plus tard, dans l'après-midi, Jules est dans sa chambre à étudier. La porte s'est ouverte violemment. Arrive son frère qui accourt vers lui, le livre à la main. « Petit fumier, tu m'as volé ma nouvelle !» Jules hausse ses épaules et lui dit « Je t'ai fait que ce que tu m'avais fait. » Et puis, de toute façon, ta nouvelle ne valait rien. « Qu'est-ce que tu en sais ?» Elle a été refusée. Charles-André lui jette à la figure son livre.
Il sort de la chambre.
Charles-André, par dépit, lassitude, n'a dit à personne que la nouvelle de son frère était d'inspiration de la sienne. Peut-être aussi, c'est qu'il s'est rendu compte que sa nouvelle ne pouvait pas être comparée à celle de son frère. Il en aurait eu honte. Les jours, les mois passent. Chacun des deux frères écrivent dans leur coin des nouvelles. Les nouvelles de Jules sont très appréciées car elles sont écrites sans emphase ni grande dramatisation. Charles-André, petit à petit, lui aussi, écrit avec plus de simplicité. Et un jour, il est édité. Cela lui donne plus d'insouciance et revient à la vie. Il continue malgré tout à boire et fumer, mais avec exaltation. Apolline, elle veut faire du théâtre, mais ne sait pas comment entrer dans le métier. On lui conseille de faire un peu de figuration au Célestin. Elle s'est présentée comme une grande et le régisseur accepte de la prendre pour quelques spectacles. Elle en est très heureuse. Jules et elle sont toujours très unis. Ni l'un ni l'autre n'ont de relation. Leur amour est sans ennui parce que caché malgré eux, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas exprès. Un soir, Jules est convoqué au bureau de son père.
Entrez.
Bonjour, père.
Entrez. Assieds-toi.
Je t'ai fait venir, c'est pour te parler de ton avenir. Tu publies des nouvelles, c'est très bien, et j'en suis fier. Mais malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, et cela ne suffit pas pour vivre. Tu peux t'en rendre compte par toi-même. Alors il faut que tu aies un métier en plus de la littérature. Attention, je ne dis pas d'arrêter d'écrire, mais tu dois avoir un deuxième métier. Qu'en penses-tu ?
Vous avez raison, père.
Bien. Tu es un garçon sérieux. Que comptes-tu faire ?
Je ne sais pas. À part les livres, rien ne m'intéresse vraiment. Son père lui dit.
Puisque tu es bon élève, pourquoi ne ferais-tu pas, je ne sais pas moi, des études peut-être de professeur de littérature ?
Oui, c'est une bonne idée.
Eh bien, voilà. Je suis très heureux. Tu peux t'en aller. Nous nous retrouvons pour le retour. J'ai à travailler.
Jules devance encore son frère qui ne fait rien à part écrire.
Les jours passent.
Jules s'est présenté à la faculté de lettres et continue à écrire des nouvelles. Comme il était pris par ses devoirs, Apolline le voit moins. Elle a tout arrêté et a fait un peu de figuration. Quelquefois, on lui donne un rôle de soubrette. Jules, en grandissant, devient sérieux et Apolline a une très grande force de vivre. Lorsqu'elle va voir son frère, elle s'ennuie un peu et il s'occupe moins d'elle. Pourtant, il continue à l'aimer.
Alors, sans que Jules s'en aperçoive, elle cherche malgré elle un autre compagnon pour se désennuyer. Ce n'est pas qu'elle n'aime plus Jules, mais c'est un besoin, comme celui d'aller et venir, de vivre à vive allure.
Un soir, qu'elle passe devant la chambre de son frère, la porte s'est ouverte. Elle le voit comme une apparition. Il fait plus mûr, homme, et avec son visage triste et maigre, on dirait un Christ aux grands yeux fiévreux. Elle est surprise. Il la regarde et lui demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle lui dit « Rien. Tu veux entrer ?» Il lui laisse le passage. Elle entre.
Est surprise par sa chambre, une chambre qui ressemble en rien aux autres pièces de la maison. On dirait même qu'elle ne fait pas partie de la maison. Même les chambres des domestiques font partie de la maison. Là, on se croirait dans une pièce d'un immeuble vétuste pour jeune bohème. C'est sale, poussiéreux, ça sent la fumée. Elle lui demande « La femme de chambre ne vient jamais faire ta chambre ?» « Non, c'est moi qui veux pas. Pourquoi ? Ça me regarde, si j'aime vivre comme ça. » « Oui, en fait, tu as raison. »
Il va s'allonger sur le lit. Elle va s'asseoir sur une chaise à côté.
Il prend une pipe sur la table de nuit et s'en fait une. Elle lui demande « Qu'est-ce que tu fais de tes journées ?» Il hausse les épaules et lui dit « J'écris. » « Quoi ? » ?»« Des histoires, des poèmes, tout ce qui me passe par la tête. » « Et tes écrits, qu'est-ce que tu en fais ?» Il hausse les épaules et lui dit « Pas grand-chose. Des fois, ils servent à mon frère. » Elle lui dit « Vous continuez à vous voler vos écrits ? Vous êtes de vrais gamins ?» Il lui dit « C'est pas moi, c'est lui. » Elle lui répond « Toi aussi la première fois. » « C'est vieux. » Et puis, ça ne m'a rien apporté. J'ai payé les frais d'impression et les livres sont restés chez moi, ici, sans être vendus. Ils y sont toujours ? Non. J'en ai eu marre. Et puis, je trouvais cette histoire mal faite. J'ai brûlé les livres dans une décharge. Même mon manuscrit. Il ne reste rien de ce que j'ai écrit. Jules peut la faire rééditer et risque rien. Alors tu vois, l'incident est clos. Pourquoi m'a-t-il pris mon histoire ? Quelle histoire ? La première qu'il a fait éditer, elle était de moi. Ça n'a plus d'importance, remarque. J'écris juste pour moi. Je ne cherche même pas à gagner ma vie. J'ai besoin de peu. On vit, on meurt, pour rien. Comme ça, c'est tout. Elle lui dit, il ne faut pas être si pessimiste. Je ne suis pas, je suis réaliste. Tout ce qui nous entoure, sent le pourri. C'est la fin du monde. Nous sommes tous des momies. Les dieux sont morts. Il n'y a plus qu'à attendre notre fin. Alors tu ne fais plus rien ? Si j'écris. Pourquoi ? Comme ça, pour moi, pour sortir de ce monde. Tes histoires sont gaies ? Idéaliste ? Non. Non. Elles sont faites pour que je dise ce que je ressens et pas pour m'exprimer. On peut sortir du monde qui nous entoure en écrivant ce que l'on ressent. Elle lui dit, je comprends pas vraiment. Tu écris pour sortir du monde en écrivant tout ce que qui te gêne dans ce monde. Il lui répond, si tu veux, ce que j'aime dire ou faire. Dire leur vérité aux gens. Tiens, regarde. Par exemple, quelqu'un m'accuse d'une chose que je n'ai pas faite. Dans la réalité, je ne peux pas m'exprimer. Alors que par une histoire, j'explique ce qui m'est arrivé. Un autre exemple. Oui, un autre exemple. On me met prise dans la vie. Je ne peux pas dire ce que je ressens. J'ai envie que l'on m'aime et que les gens puissent me regretter lorsque je serai mort. Puissent regretter ce qu'ils ont fait vis-à-vis de moi lorsque je serai mort. Dans la vie, je me tais. Et pourtant, je souhaite, c'est leur dire ça. Alors, j'écris mon suicide et comment je veux que les gens réagissent. Tu comprends ? Oui, je comprends mieux maintenant. Elle se dit qu'il est malheureux et seul et qu'il n'a personne pour dire ses peines et c'est pour cela qu'il écrit. Elle lui dit « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Il lui répond « partir, partir, loin, loin, faire un grand voyage. » Elle lui répond, « Moi aussi, j'ai envie de voir Paris, Londres, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, c'est tout. » Il lui dit, « Oui, mais malheureusement, je n'ai pas d'argent. » Elle lui dit, « Nous n'en avons pas. Mais peut-être qu'un jour, qu'une de tes histoires aura du succès. » Il lui dit, « Jules a plus de chance que moi. » Elle hausse les épaules et lui dit, « Oh, Jules !» Il lui dit, « Je croyais qu'il était ton frère préféré. » »« Je n'ai pas de frère préféré. La preuve, si tu pars, je pars avec toi. » Il lui dit, « Je te prends au mot. » Elle se lève. Et lui dit, « Si tu veux me prendre au mot, garde suffisamment d'argent pour le voyage. » Écrit. Et elle quitte la pièce. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 10e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP, cinéma, vidéo, radio production, vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.